et Pierre pour me donner la possibilité de faire cet exposé sur un sujet sur lequel je travaille depuis de nombreuses années et qui me tient à cœur. Et je vous remercie aussi tous les deux pour votre action, vos actions d'animation et de formation au sein de la communauté Groupe Calcul, qui est vraiment très bénéfique. Alors, mon exposé, donc, je commencerai par le take-home message, comme ça je suis sûr de ne pas l'oublier. Et après ça, je ferai effectivement l'exposé. Donc, pour qu'il y ait une nécessité de faire du calcul parallèle, je donnerai quelques chiffres qui ne sont peut-être pas très connus. Je présenterai très rapidement FreeFM, qui est ce qu'on appelle un domaine spécifique language, donc un langage dédié, si vous voulez. Et le parallélisme qui maintenant existe dans FreeFM. Et puis, je conclurai. Alors, donc l'avantage de passer par des DSL, c'est d'avoir des scripts qui sont courts et très expressifs, qui sont très proches des mathématiques, et donc ça c'est général, et de manière plus particulière pour le calcul parallèle et la partie solver, eh bien en fait on verra que ce soit pour les méthodes multigrille ou pour les méthodes des compositions de domaines, le fait d'intégrer en fait la partie solver avec la partie discrétisation permet de faciliter beaucoup la mise en œuvre de solvers efficaces. Et avec disons une conception ancienne entre guillemets d'un côté je développe ma méthode d'éléments finis et de l'autre côté je développe mon solver linéaire, l'algèbre linéaire, on n'aurait pas pu faire ça comme on l'a fait. Alors pourquoi il est nécessaire de passer au calcul parallèle? Bien, c'est parce que depuis 2004, il y a une stagnation de la vitesse des cœurs de calcul autour de 2-3 GHz et il n'y a à peu près aucun espoir d'aller plus haut parce que le problème n'est pas la miniaturisation ou la montée en fréquence vraiment, mais c'est la dissipation de chaleur due à la montée en fréquence et à la miniaturisation. Alors sur cette courbe, vous voyez en rouge la fréquence des cœurs de calcul depuis l'année 1971 jusqu'à l'année 2015. Et oui, qu'effectivement, à partir de 2004, c'est quasiment plat. Et donc, la seule manière pour les constructeurs d'améliorer les performances de leurs calculateurs, eh bien, c'est de mettre beaucoup de cœurs de calcul sur ce qu'on appelle maintenant un processeur ou de mettre beaucoup de processeurs ensemble, etc. Et pour tirer profit de cet ensemble de cœurs de calcul qu'on a sous la main, disons, eh bien, il faut tout paralléliser. D'accord, donc évidemment la partie solver linéaire, qui est une partie sur laquelle je travaille, mais aussi la partie visualisation, la partie stockage, le système d'exploitation, enfin toutes les bases de données, etc. Tous les domaines de l'informatique sont touchés par ça. Alors, quelques chiffres qui ne sont pas forcément toujours connus, mais qui sont très importants pour comprendre quels sont les enjeux en fait, quand on parallélise un algorithme. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'énergie, la dépense énergétique, qui est de plus en plus importante maintenant, on fait de plus en plus attention à ça, faire une opération en arithmétique flottante, ça coûte 3 picojoules, ça consomme 3 picojoules. Maintenant, on va dire les données de la DRAM, de la mémoire dynamique, avant de faire cette opération, disons, ça coûte 640 picojoules. C'est-à-dire que vous avez un facteur 200 à peu près entre les deux. Donc c'est un facteur vraiment énorme. Deuxièmement, au niveau de la vitesse, donc comme j'ai dit, il y a une stagnation des cœurs de calcul à 3 GHz. Mais il faut voir quand même que 3 GHz, c'est quand même énorme. Ça fait 3 milliards d'opérations par seconde. Et dans le même temps, lorsque vous avez deux cœurs de calcul, deux processeurs, disons, deux nœuds de calcul qui doivent interagir entre eux. Ils doivent passer par un réseau pour communiquer entre eux. Et le temps minimal avant qu'il y ait l'information qui soit transmise, c'est ce qu'on appelle la latence, hein, le temps qui est une sorte de coordination entre les deux nœuds de calcul. Et même en prenant des matériels haut de gamme comme matériel InfiniBand, vous avez une latence qui est à peu près de 1 microseconde. Et pendant cette microseconde, bah, 3 GHz, vous pouvez faire 3000 opérations. Et là, on n'a encore transmis aucune information. Alors, vous pouvez dire, oui, mais ce temps de latence d'une microseconde, ça va s'améliorer. Alors, oui, ça va s'améliorer, mais ça s'améliore très, très lentement. Il n'y a pas vraiment de. Comment dire de barrière technologique qui a été rompue récemment. Et même si vous. Mais par contre, mais il y a une limite inférieure qui est qu'on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et bien, même à la vitesse de la lumière, pour parcourir 3 mètres, il vous faut 0,01 microseconde. Et pendant ce temps-là, à 3 GHz, vous pouvez faire 30 opérations. Donc, ce que signifient ces premiers chiffres, c'est que ça permet d'avoir en fait une vue très simplifiée des architectures modernes de calcul, où on peut considérer qu'en fait, en première approximation, on a un nombre quasiment illimité de cœurs de calcul qui sont très rapides, que pour pouvoir faire des gros calculs, on est obligé de distribuer les données, donc les répartir sur les cœurs. Donc, personne ne connaît l'ensemble des données. Et que ce qui coûte cher, à la fois en temps de calcul et en termes d'énergie, c'est les communications, qui sont vraiment la ressource gênante. Et donc ça pousse vers des algorithmes à gros grain, dans lesquels on va maximiser les calculs locaux, minimiser les communications, et pour lesquels, en fait, les calculs redondants sont bienvenus s'ils permettent de diminuer le nombre de communications à faire. Ouais, donc ça change beaucoup la manière d'évaluer la complexité algorithmique des méthodes, puisque finalement le nombre de flops devient secondaire en fait par rapport au coût des calculs, au nombre de transmissions qu'on doit faire, aux quantités de données qu'on doit transférer. Alors, donc moi je travaille essentiellement sur le solver linéaire et c'est important évidemment quand on fait du calcul scientifique, puisque ça occupe à peu près 80% du temps de calcul d'une simulation typique, même si ça ne fait qu'à peu près 20% au maximum des lignes de code. Alors, niveau, un panorama très rapide des solvers linéaires, et c'est important pour la suite, puisque avec FreeFM, on a un accès à ces différentes méthodes de différentes manières. Alors, niveau des solvers directs parallèles, donc en France, ben, on est bien placé, vous avez MEMS, donc qui est développé à la fois à Toulouse et à Lyon. Vous avez PASTIX aussi, et puis aux États-Unis, vous avez SuperElu, UMFPAC, et en Suisse, vous avez Paradiso, qui est enfin, un logiciel commercial, disons, mais qui est d'utilisation gratuite pour la recherche. Donc, le gros avantage des méthodes directes, hein, c'est que ce sont les plus faciles à intégrer dans un code de calcul. Puisque grosso modo, c'est juste une ligne à rajouter dans votre code pour dire je fais appel à telle librairie qui fait ça bien. Et en plus, à part pour des problèmes extrêmement difficiles, c'est des méthodes très robustes qui vont vous donner la solution. Que votre problème soit symétrique, non symétrique, qu'il y ait dedans des multiplicateurs de Lagrange ou pas, etc. Quelle que soit la structure de votre problème, le solver direct va y arriver. Donc le problème avec le parallélisme, par contre, c'est que à la base, une méthode directe, c'est séquentiel. Et ça se parallélise, disons, à peu près bien jusqu'à 10, 20 cœurs si on se débrouille très bien. Mais après, il y a une limite qui fait d'ailleurs que la plupart des gens qui travaillent sur des méthodes directes parallèles commencent en fait à introduire des factorisations approchées et donc commencent à rentrer aussi dans le monde de l'itératif, en fait. Voilà, donc. Mais si votre problème est de taille assez petite ou que vous pouvez attendre le temps nécessaire, si même si votre problème est de taille moyenne, les méthodes directes, c'est vraiment le premier endroit où aller. Après ça, vous avez une méthode purement itérative à l'autre spectre du panorama, je dirais. Donc, méthode à l'ancienne, méthode Jacobi, Gauss-Seidel, etc. Et puis les méthodes plus modernes de type Krylov, comme le gradient conjugué, GEMRES, etc. Donc, dans toutes ces méthodes, essentiellement, on fait appel à un produit matrice vecteur, ou à des produits scalaires. Le produit matrice vecteur est une opération qui se parallélise très bien. Donc, on bénéficie très facilement et naturellement du parallélisme dans ces méthodes. Mais l'inconvénient, comme tout le monde le sait ici, je pense, c'est que pour beaucoup de problèmes, si vous n'avez pas un bon préconditionneur, ben, ces méthodes vont stagner, voire diverger, parce que le nombre d'itérations est trop grand pour les faire converger. D'où l'intérêt d'avoir des méthodes de type hybride qui essayent de mélanger les avantages des méthodes directes et des méthodes itératives. Vous avez essentiellement deux types de méthodes. Donc, les méthodes de multigrille, donc, qui ont démarré après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, hein, avec Harry Brandt et puis après ça, beaucoup d'autres gens. Disons, on peut les voir comme des méthodes de décomposition en fréquence, dans le sens où vous partez d'une grille fine, qui est la grille sur laquelle vous voulez obtenir la solution. Vous déraffinez cette grille, ou la rendez plus grossière si vous voulez. Vous résolvez de manière approchée, vous transférez votre résidu de la grille fine sur cette grille plus grossière. Vous résolvez de manière approchée sur cette grille plus grossière. Vous retransmettez votre nouveau résidu grossier à une grille encore plus grossière, etc. Jusqu'à arriver à la grille la plus grossière de votre méthode multigrille sur laquelle vous faites une méthode directe. Donc c'est là où vous utilisez des méthodes directes. Et après ça, la correction que vous avez calculée est retransmise par étapes sur les grilles plus fines. Et plus récemment, il y a la méthode décomposition de domaine. Au niveau théorique, disons, c'est essentiellement Love Vidloun qui a développé ces théories. Charbel Farhat au niveau plus méthode et implémentation, etc. Puis beaucoup d'autres gens ont travaillé dessus. Donc la méthode décomposition de domaine, c'est différent. Ce qu'on fait, c'est que le domaine qui est trop gros pour qu'on puisse appliquer une méthode directe dessus, on va le décomposer en sous-domaines plus petits, de telle sorte que sur chaque sous-domaine, en fait, une méthode directe va être efficace. Et après ça, pour accorder les solutions au niveau des interfaces, eh bien, on va utiliser des méthodes itératives de recollement pour assurer la continuité de la solution et des flux de solutions, etc., entre les sous-domaines. Et là, vous voyez que ce sont des méthodes qui sont naturellement parallèles, puisque si vous avez, je sais pas, par exemple, 1000 sous-domaines, dans ces méthodes, vous allez résoudre en parallèle un problème aux limites dans chaque sous-domaine. Si vous avez 1000 cœurs, le coût d'une itération va être le coût de la résolution d'un petit problème. Alors, donc là, j'ai fait une différence entre ces deux méthodes. Maintenant, quand on les étudie d'un point de vue théorique, en fait, on peut les unifier dans un cadre commun. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Hein. Mais donc, à la fois, il y a des différences et des ressemblances entre ces méthodes. OK. Alors maintenant, donc FreeFM, en tant que un domain specific language, donc un langage dédié à la méthode des éléments finis. Alors, donc, évidemment, il y a donc pourquoi utiliser un DSL ? Donc, comme FreeFM, celui dont je vais parler, vous avez aussi Phil++ qui a développé à Strasbourg autour de Christophe Rudom, vous avez Dune en Allemagne, vous avez Phoenix dans le nord de l'Europe et disons aux États-Unis, et FireDrake qui est une surcouche de Phoenix qui est développée essentiellement en Angleterre, donc vous avez pas mal de, j'en oublie énormément, hein. Donc de langages dédiés au calcul scientifique pour la méthode des éléments finis. Donc la question, c'est pourquoi utiliser ce type d'approche plutôt qu'un code en C, C++, Fortran, etc. Alors, la raison principale, il y en a deux, c'est qui sont données ici, c'est que, bon, d'abord, en performance, vous ne perdez pas grand-chose, voire quasiment rien du tout. Et surtout, c'est que c'est difficile de battre quelque chose aussi simple que l'interface qui est ici. Donc, ce que vous avez ici, c'est une formulation variationnelle qui vous permet de définir un problème de poisson. Donc, petit a, c'est la forme bilinéaire. Et vous savez que pour un problème de poisson, vous pouvez le mettre sous la forme de dire que vous cherchez une fonction u, tel que pour toute fonction test V, l'intégrale de gradu grad V moins est égale à l'intégrale de FV, où F est votre second membre. Bon, en fait, dans votre code, vous allez quasiment écrire ça, donc ça c'est un bout de code FreeFM, hein. Vous écrivez l'intégrale, donc 3D, parce que là on est en dimension 3, sur mon maillage, de le produit scalaire entre le gradient de U et le gradient de V, moins l'intégrale de FV, plus une condition de Dirichlet sur une partie du maillage, on impose égal à 0, et vous avez formulé votre problème. Voilà, donc c'est extrêmement souple, et c'est surtout très proche des mathématiques de ce qu'on écrit au tableau lorsqu'on fait une formulation variationnelle d'un problème aux limites. Et par ailleurs, on le verra par la suite, c'est qu'un intérêt qui est apparu par la suite, bien après que le langage ait été écrit, c'est que le fait de disposer de la formulation variationnelle aide beaucoup pour les méthodes décomposition de domaine, comme on le verra par la suite. Alors, très rapidement, hein, au niveau de FreeFM, donc ça a été initié en 1987 par Olivier Pironneau. C'est écrit en Pascal et ça tournait sur Macintosh seulement. Et depuis 1992, le principal développeur, c'est Frédéric Hecht, qui donc écrit la version qui s'appelle maintenant FreeFM++, qui est écrite en C, hein, mais Alors, avant de montrer un petit exemple, de faire une mini démo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, juste quelques caractéristiques de FreeFM. Donc, ça intègre beaucoup de librairies existantes, donc que ce soit pour les maillages. Donc, ça peut lire énormément de formats de maillages créés par d'autres mailleurs. Ça peut intégrer des bibliothèques de solvers directs comme MUPS, Bardiso, etc. Ça peut intégrer des algorithmes de visualisation, d'optimisation non linéaire, etc., etc. Alors, aussi, une chose très importante qui est extrêmement utile et qui est, je ne sais pas si les autres l'ont aussi bien ou pas, mais dans tous les cas, c'est vraiment particulièrement efficace sur FreeFM, c'est la notion de raffinement automatique de maillage qui permet d'automatiser énormément d'opérations lorsqu'on fait des calculs scientifiques et de manière très efficace. Donc, c'est natif, disons, en 2D, et via un plugin à la librairie MMG qui est développée par Pascal Frey, vous avez l'équivalent en 3D. Une autre chose extrêmement pratique, c'est la possibilité d'interpoler entre différents éléments finis qui ont été définis éventuellement sur des maillages différents. Donc ça permet de faire du couplage de physique, de méthode, etc., de manière extrêmement souple, en quasiment une ligne. Hein. Vous dites ma fonction à gauche qui est définie sur un certain type d'éléments finis sur un maillage qui est comme ci ou comme ça, eh bien, je vais dire qu'il est égal, au moins sur la partie qui est en commun avec un autre maillage, à une autre fonction qui a été discrétisée autrement. Et vous pouvez aussi interpoler des nuages de points sur un maillage, donc ça permet de faire des méthodes de particle incel, etc. Alors, c'est extensible via des dynamiques plugins. Il y a une interface avec MPI qui allège beaucoup l'écriture d'un script MPI et qui, à mon avis, peut aussi servir pour faire de l'enseignement d'MPI, dans le sens où ça permet de se concentrer sur vraiment ce que fait MPI et pas sur la verbosité qui va avec MPI de manière naturelle. Donc, ça tourne sur Linux, Windows et Mac en parallèle depuis 2017, hein, surtout sur ces trois plateformes. Ça fait longtemps que ça tourne dessus, mais la version parallèle pour les trois systèmes d'exploitation, c'est depuis 2017. Et c'est accessible sur le cloud, donc sur le nuage, comme on dit, de calculateur. Donc, au moins, à notre connaissance, par deux fournisseurs d'accès. Donc, Carnot, qui est un fournisseur français, avec qui on a eu des contacts, et puis Riskel, qui est une société américaine, je pense, donc qui ont FreeFM, qui est déjà installé sur leur machine. Et puis, vous avez un browser web, c'est-à-dire que grâce au travail d'Antoine Leyarrick, qui est au laboratoire, il y a un portage de FreeFM qui a été fait en JavaScript, et comme tout navigateur Internet comprend le JavaScript, eh bien, vous pouvez faire tourner FreeFM sur un smartphone, sur un iPad, sur une tablette, etc. Alors, que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Tout FreeFM typique, enfin pas typique, mais un script FreeFM. Donc, du côté domaine spécifique language, donc ça ressemble à, vu de loin, disons, ça ressemble à du C++, hein, dans le sens où vous avez des variables que vous pouvez définir, des variables qui sont de type entière, comme d'habitude, de type réel. Et puis, le côté langage spécifique, c'est que vous avez un type, enfin des types de données qui correspondent à ce qui est nécessaire pour faire des calculs en éléments finis. Vous avez le type maillage, qui s'appelle mesh. Donc ici, je déclare simplement que TH va être de type maillage. Voilà, je mets un nombre de points, bon, qui est égal à 30 ici, et puis je définis une frontière de manière paramétrée, qui en fait, si vous regardez bien, correspond à définir une ellipse en deux morceaux, une partie supérieure, une partie inférieure. Et puis je peux regarder tout de suite à quoi ressemble ma frontière. Donc on va le faire exécuter tout de suite. Voilà, donc ça c'est ma frontière et vous voyez des petites flèches dans le sens de parcours et vous voyez que il y a deux couleurs parce que j'ai défini ma frontière avec deux morceaux. Voilà. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est construire le maillage qui correspond à cette frontière. Donc ça, vous avez la fonction buildMesh puisque FreeFM a meilleur intégré. Voilà, et donc ça, c'est le maillage qui est créé de base, disons, par FreeFM. Et ce qu'on a imposé, c'est d'avoir 30 points sur chaque demi-frontière d'ellipse. Voilà, alors après, vous avez le type func, donc fonction, qui, en fait, vous permet de définir une fonction, et même au sens analytique du terme. C'est-à-dire que, bon, ici, j'ai pris une fonction constante qui vaut 10, mais j'aurais pu écrire, et ça marche aussi bien, la fonction qui vaut 1 plus 100 fois sinus de cosinus x fois y. D'accord? Vous pouvez mettre des formules analytiques de complexité arbitraire, et vous pouvez vous servir de cette fonction comme d'une fonction analytique. Et après ça, surtout, vous pouvez l'interpoler sur une fonction élément fini. Alors après ça, vous avez encore un autre type dédié aux éléments finis, c'est le type FE space, donc finite element space. Donc ici, on va l'appeler VH, et on va faire appel au constructeur qui prend comme argument donc un maillage, donc ici le TH qu'on a défini tout à l'heure, et puis P1, parce que je prends des éléments finis P1, et pour avoir des éléments finis P2, il suffit que je change le P1 ici en P2, et j'aurai des éléments finis P2. Voilà, et donc ici, dans cette ligne du code, bah, je déclare func h comme étant en fait une fonction élément fini, donc de type P1 sur mon maillage TH, et qui va être une interpolation de la fonction analytique petit f. Voilà, donc vous avez un passage agréable entre, d'un côté, les fonctions analytiques et les fonctions éléments finis. Voilà, et puis après, vous pouvez définir un problème de type poisson, comme j'ai fait tout à l'heure, avec une formulation variationnelle. Donc de nouveau, là je suis en 2D, on reconnaît l'intégrale de grade U, grade V. OK. Alors avant de regarder la suite du script, je continue l'exécution du petit programme. Voilà, donc là, vous avez un premier calcul de solution qui est effectué. En fait, sur une partie de la frontière, j'ai mis une condition de Dirichlet homogène, donc la fonction est nulle, c'est ce que vous voyez ici. Et puis sur l'autre, j'ai mis une condition de Neumann homogène, c'est-à-dire la dérivée normale est nulle, ce qui fait que les isovaleurs que vous voyez ici de la solution sont perpendiculaires à la frontière. On voit bien, et puis si j'appuie sur M, vous pouvez voir le maillage par derrière. Voilà, et après, en fait, il y a une suite de calculs où vous voyez qu'il y a un raffinement du maillage. Et pourquoi le maillage a été raffiné à cet endroit-là? C'est parce que, en fait, comme il y a une discontinuité de la condition au bord, votre solution manque enfin, moins de régularité à ce niveau-là de la frontière que dans le reste du domaine. Et en fait, la méthode d'adaptation de maillage, qui s'est basée sur la solution de l'étape précédente, repère entre guillemets automatiquement ça, et du coup raffine le maillage là où elle pense que c'est nécessaire, et puis le déraffine là où elle voit que la solution bouge. Ça plusieurs fois, jusqu'à 6 fois, et vous voyez que le maillage ici commence à devenir effectivement très fin, et c'est l'endroit où effectivement c'est avoir une solution plus précise pour affiner. Voilà, et donc pour faire tout ça, c'est extrêmement simple, c'est juste la boucle qui est là. Donc là, je raffine 6 fois de manière arbitraire, et bon, il y a un premier calcul qui est fait avec le maillage de départ, et puis après, quand on rentre dans la boucle, vraiment, eh bien, qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a la fonction AdaptMesh qui va prendre comme argument donc le maillage précédent, la solution qui a été calculée sur ce maillage en question, et qui va raffiner le maillage pour que la fonction UH soit mieux représentée sur ce maillage, et ça va créer un nouveau maillage TH. Et après, quand je re-résous le problème en utilisant juste ici le mot-clé chaleur, en fait, la formulation variationnelle qui est ici va être réévaluée sur le nouveau maillage, de manière dynamique, et je vais avoir une solution différente, etc. Voilà, et donc cette fonction AdaptMesh, donc elle existe aussi en 3D, et vous voyez que elle permet d'automatiser énormément de choses, parce que là, bon, c'est un cas entre guillemets facile où je sais exactement ce que je fais à la main sur un domaine simple. Imaginez une situation tridimensionnelle où en fait vous ne savez pas où il y a un phénomène violent qui va avoir lieu. Eh bien, plutôt que de devoir adapter un maillage à la main, ce qui est une opération qui prend énormément de temps, qui n'est pas simple, etc., vous pouvez l'automatiser. Voilà. OK. Alors, Donc, je ne me rends pas compte s'il y a des questions ou comment ça se passe, qui va gérer le... Anne ou Pierre, je ne sais pas, vous gérez la partie.
Oui. Sur, d'accord. Frédéric, il y a quelques questions, mais peut-être, ouais. Ça dépend si tu veux être interrompu ou...
Moi ça me gêne, voilà. Dans le format, je ne sais pas, comme vous voulez, quoi. C'est bien. Moi, ça me gêne pas. Ouais.
Alors, je te précise juste de quoi ça parle, les questions actuelles. Il y avait des questions sur justement le mailleur et leur raffinement adaptatif. Mm-hmm. Et voilà, soit elles sont notées dans les notes partagées. Donc, du coup, Pierre Jolivet avait commencé à répondre. Et du coup, bah, peut-être tu peux commenter après ta présentation en revenant sur ces points-là et puis poursuivre actuellement.
D'accord, ok. Bon, comme je ne suis pas spécialiste de la question, je préfère laisser Pierre ou quelqu'un d'autre à répondre sur le chat et puis on en discutera après. Juste pour dire quand même que toute cette partie-là est vraiment extrêmement puissante et il y a même des gens qui sont attachés à leur code de calcul pour une très bonne raison et qui se servent de FreeFM comme un mailleur pour après ça exporter le maillage et l'utiliser dans leur code. Voilà, donc comme j'ai dit, donc ça c'est ma présentation rapide de FreeFM. Donc maintenant, je vais reparler du calcul parallèle. Donc pour nous, le calcul parallèle, c'est-à-dire, on veut faire des calculs sur des gros volumes, et donc on va distribuer les données. D'accord ? Donc c'est-à-dire, c'est un mode de parallélisme qui est de type, pour ceux qui connaissent MPI, et non pas de type OpenMP, donc ce n'est pas du parallélisme multithread qu'on vise, hein, c'est du parallélisme vraiment distribué. Et donc la première opération compliquée à faire, c'est si vous partez d'un maillage donné, donc ici c'est le maillage d'une chambre électromagnétique qui sert à faire des mesures, d'imagerie du cerveau en fait. Donc ici vous avez, en fait c'est un creux, il faut imaginer que c'est un cylindre vide en fait, et vous maillez le cylindre parce que c'est là où l'onde électromagnétique va se propager. Et en fait, c'est là-dedans que la personne va mettre sa tête, le patient va mettre sa tête. Et puis, les ailettes qui sont tout autour correspondent en fait à des antennes qui sont en céramique et par lesquelles va passer l'onde électromagnétique. Et donc, le domaine dans lequel il faut résoudre, donc dans ce cas-là, l'équation de Maxwell, c'est le domaine qui est maillé ici en 3D. Et donc, la première chose à faire, c'est de découper ce maillage en sous-maillage. Donc ici, chaque couleur correspond à un sous-domaine différent. Et après ça, transférer les données correspondantes sur chaque cœur de calcul. Donc ici, typiquement, on aurait un cœur qui s'occuperait d'un sous-domaine, donc autant de cœurs que de sous-domaines. Voilà, et puis après, il faut être capable de résoudre donc, le problème alors que les données sont distribuées maintenant, obtenir une solution cohérente et puis éventuellement la visualiser en rassemblant tous les morceaux. Alors, donc pour faire cette partie de décomposition du maillage, on fait appel à des décomposeurs automatiques comme Métis qui est développé aux États-Unis ou Scotch qui est développé à INRIA Bordeaux, qui vous donnent, naturellement un partitionnement du maillage, qui par contre ne savent pas gérer le recouvrement, qui pourtant peut être très utile pour les méthodes de composition de domaine ou d'autres situations. Et donc le recouvrement est géré par FreeFM en interne. Et en partant des partitions de maillage fournies par ces partitionneurs automatiques, FreeFM rajoute une, deux ou trois couches de voisins qui sont pris chez les autres sous-domaines, entre guillemets, il fait ça pour chaque sous-domaine. Du coup, vous avez des sous-domaines qui se recouvrent. Et ça, c'est une partie qui est compliquée au niveau de la structure de données et elle est faite une fois pour toutes pour l'utilisateur. Voilà, et donc là, on se retrouve avec des données partagées. Alors, juste quelques illustrations quand même de ce qu'on peut faire. Et après ça, je montrerai quelques lignes de code. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire des gros calculs avec et avec des scripts qui sont les mêmes que celui que vous utiliseriez sur une machine avec peu de cœur. Donc, ça, c'est un calcul Maxwell tridimensionnel avec des éléments finis des délais de degré 2. Donc, vous avez 120 millions de degrés de liberté et c'est un test d'extensibilité forte. Et vous voyez que le comportement est plutôt bon puisque ici, vous avez... le temps pour atteindre la solution, donc en échelle logarithmique en secondes, en fonction du nombre de sous-domaines ou aussi en échelle logarithmique. Et vous voyez que c'est pas loin d'être la droite idéale. Évidemment, j'ai pris les chiffres où c'est la droite idéale, mais bon, grosso modo, ça se passe bien. D'autres calculs qui ont été faits par Pierre-Henri Tournier en relation avec en fait une équipe qui travaille en Angleterre, donc Victorita Doléan, Yvan Graham, Johan Spence et puis Marcella Bonazzoli qui maintenant est à INRIA au CEMAP. Donc de nouveau, un sont des calculs avec à peu près 200 millions de degrés de liberté et avec différentes fréquences, donc pour un cas-test connu, propagation d'onde qui est une cavité cobra. Voilà, les temps de calcul sont tout à fait raisonnables, hein, 200 secondes, etc. Voilà. Alors, une autre chose intéressante aussi, c'est que donc ces possibilités de parallélisme commencent à intéresser aussi les gens qui font la propagation d'onde avec des méthodes de type différence finie. Parce que lorsque vous commencez à faire de l'élasticité en propagation d'onde avec des méthodes différence finie, en fait, comme votre pas de maillage est constant, grosso modo, vous êtes très gêné par les discontinuités de coefficients qui sont beaucoup plus gros pour l'élasticité que pour l'acoustique. Et du coup, ces gens qui sont très habitués à avoir des schémas de dents très élevés en différence finie commencent à se demander s'ils n'auraient pas intérêt à faire des méthodes d'éléments finis. Donc ça, c'est un travail que mène Pierre-Henri Tourny en collaboration avec Stefano Perto et puis d'autres gens. Donc, des comparaisons entre, disons, des grilles cartésiennes sur lesquelles on ferait des différences finies, et puis des méthodes adaptatives, justement, où le maillage est créé en utilisant des fonctions de type AdaptMesh, comme j'ai montré tout à l'heure. Et vous voyez, donc, pour, disons, une même précision, pour faire simple, vous pouvez passer, par exemple, d'un maillage de 180 millions de degrés de liberté à 85 millions de degrés de liberté, donc vous divisez par deux le nombre de degrés de liberté. Et puis, même il y a des situations en fait où le maillage cartésien devient tellement gros qu'il n'est plus gérable, disons, alors qu'avec une méthode d'éléments finis, avec un maillage bien travaillé, qui s'adapte aux coefficients du problème, eh bien, vous arrivez à faire le calcul. Donc ça, c'est encore en cours d'évaluation, hein. Je ne dis pas qu'il faut abandonner les différences finies d'ordre élevé, mais je dis que ce genre d'outil, donc comme FreeFM, permet de, dans tous les cas de poser la question et intéresse des gens qui... jusqu'à maintenant, ne faisait que des différences finies avec des bonnes raisons pour ça. Alors, voilà, donc encore d'autres résultats. Donc ça, c'est Pierre Jolivet avec des co-auteurs pour un problème de transfert radiatif où ils ont fait un problème avec 1 milliard d'inconnus en 60 secondes sur 8000 cœurs. Donc, Pierre pourra répondre aux questions si vous en avez là-dessus. Voilà, donc c'est un outil puissant. Alors, donc maintenant, comment est géré le parallélisme en FreeFM? À quoi vous avez accès? Alors, il y a deux approches, finalement, au point d'en être à l'instant T, hein, qui fonctionnent. Vous avez une approche d'une interface avec PC qui a été faite par Pierre Jolivet, donc, qui travaille à l'ERIT à Toulouse, et avec en collaboration avec Stefano Zampini qui est à Coast. Et puis, vous avez une approche purement en FreeFM, je dirais, qui s'appelle FFDDM, donc qui s'attache surtout à une méthode de composition de domaine développée essentiellement par Pierre-Henri Tournier, donc au laboratoire, et avec quelques inputs de ma part. Alors, je vais présenter très rapidement les deux choses, disons. Alors, tout d'abord, si vous avez un problème concret sous la main et que les solveurs qu'il y a dans PC, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une librairie d'algèbre linéaire développée aux États-Unis, parallèle, depuis de nombreuses années, qui est écrite en C et qui est interfaçable avec le C++, le Fortran, etc. Qui est très populaire et qui est complètement libre de droit, open source, etc., comme FreeFM d'ailleurs. Alors, donc, il y a une partie de PC qui s'occupe des solveurs linéaires. Et si dans PC, vous avez quelque chose qui vous convient, eh bien, le plus simple, c'est de passer par cette interface entre FreeFM et PC. Donc, vous avez le choix entre des solveurs directs comme MUMS, par exemple, que vous pouvez utiliser, la méthode multigris GMG, par exemple, mais d'autres aussi comme Hyper, qui sont interfacés via PC et donc qui sont maintenant utilisables dans FreeFM. Je donnerai un exemple tout à l'heure. Et puis aussi les méthodes de composition de domaine qui sont incluses dans la librairie HPDDM. Donc développé avec Pierre Jolivet développe maintenant beaucoup et qui a été initié pendant sa thèse sous ma direction. Donc, si une de ces trois types de méthodes fonctionne, c'est le plus simple, parce qu'en plus, vous bénéficiez d'une librairie énorme, pas seulement de solveurs directs, mais ou de solveurs tout court, je veux dire, ou même itératifs, mais aussi d'autres outils que fournit PETC. Vous avez énormément de schémas de discrétisation en temps qui sont en quelque sorte préprogrammés. Vous avez juste une sorte d'interface où vous devez remplir des blocs pour pouvoir utiliser des schémas de Runge-Kutta, d'Orms, comme vous voulez, ou d'autres choses plus compliquées. Vous avez des optimiseurs non linéaires, si vous faites des programmes inverses, etc. Enfin, beaucoup de choses viennent avec PETC. Alors, au point où on en est, il y a quand même deux inconvénients. C'est que vous ne pouvez pas, enfin à ma connaissance, utiliser dans un même script, en même temps, des nombres réels et complexes. Parce que c'est lié à la librairie PETC qui soit travaille en réel, soit travaille en complexe. Bon, c'est peut-être un problème qui va être réglé, mais c'est un petit inconvénient. Et si PETC ne répond pas à vos demandes, c'est-à-dire que vous êtes obligé vous-même de développer des choses pour que ça fonctionne, eh bien, c'est assez compliqué parce que PETC s'écrit en C plus MPI. C'est pas évident de rentrer dedans. Et voilà. Donc, c'est pas si simple de adapter, disons, une méthode que vous avez en tête à cette interface. Alors, une chose importante, et là, c'est vraiment un gros avantage de passer par un langage dédié pour utiliser PETC quand vous faites des méthodes multigris. Bon, sans rentrer dans les détails des méthodes multigris, une connaissance essentielle pour avoir une méthode qui marche bien, c'est de connaître ce qu'on appelle le presque noyau de la matrice, c'est-à-dire, grosso modo, pour un problème de Poisson, ça va être la fonction constante 1 qui annule l'opérateur, et pour un problème d'élasticité, les mouvements de corps rigide qui annulent l'opérateur. Parce que pour avoir des méthodes multigris qui fonctionnent bien, en fait, les algorithmes ont besoin de cette connaissance. Mais cette connaissance sous forme d'un vecteur de degré de liberté. Et ça, ce n'est pas évident, puisque ce vecteur de degré de liberté va dépendre de la discrétisation, de votre géométrie, etc., etc. Et là, on va voir dans un bout de code comment ça fonctionne. Donc, ce bout de code... Ouais, ça va. Donc ce bout de code là, vous pouvez y avoir accès directement donc, dans les exemples HPDDM qui sont donnés avec la distribution de FreeFM. Alors j'ai juste un tout petit peu customisé l'exemple. Je vais ouvrir. Bon, vous voyez toujours l'écran ?
Oui, merci.
Voilà. Donc ça, c'est le code qui peut tourner en parallèle. Alors, ce qui est important là-dedans, c'est que, bon, donc de nouveau, en macro, en FreeFM, pardon, vous avez accès au macro. Donc vous pouvez, grâce à ça, définir des choses assez compactes. Donc pour l'élasticité, c'est extrêmement pratique puisque vous avez le tenseur des déformations, qui est une expression un peu compliquée avec des dérivés croisés. Voilà. Et vous avez aussi, vous avez besoin de la divergence, donc avec des dérivés pas croisés. Bon, bah, voilà, par exemple, la divergence d'une fonction U, vous pouvez définir ça comme une macro, et c'est du dx plus du, enfin plus dv dy plus dv dz. Voilà, alors ce qui est important, c'est que indépendamment de la manière dont ça se passe vraiment, si remarquez, je peux dire quelques mots de plus. Donc, voilà, ok, tout est bon. Donc en fait, jusqu'ici, vous êtes mentalement, disons, je dirais, dans un code séquentiel. Donc vous définissez un maillage, bon, qui pour faire simple ici est un cube, enfin allongé, donc une poutre. D'accord. Et ça, ce code est exécuté par tous les cœurs de calcul en même temps. Après ça, vous définissez ici une matrice d'un nouveau type qui n'est pas la matrice standard de FreeFM, qui est de type mat, qui en fait correspond à une matrice PETC. Donc là, en fait, elle est juste déclarée. Pour l'instant, il n'y a rien dedans, c'est une coquille vide. Et en fait, quand vous faites appel à buildMat, en fait, buildMat va prendre comme argument votre maillage, qui pour l'instant est le maillage global, Et puis, bon, des arguments, entre autres, le type d'élément fini que vous avez. Et en fait, cette fonction va faire énormément de choses. Elle va créer le partitionnement de votre maillage en sous-maillage, créer les zones de recouvrement éventuelles, et distribuer, et après ça, créer les vecteurs, disons, ou les matrices locales, enfin, pas la matrice elle-même, mais la possibilité, disons, de stocker des données qui soient au même format que PETC. Donc, compréhensible par PETC, si vous voulez. Et après ça, donc là, il n'y a pas de données encore qui ont été remplies, mais toutes les structures de données sont prêtes. Voilà, donc ça, c'est énormément de travail qui est fait derrière pour vous, si vous voulez. Et après ça, le problème lui-même est défini avec la formulation variationnelle qui est ici, donc bon, c'est un problème d'élasticité, donc lambda div U div V, donc ça, formulation variationnelle, plus 2 mu, une sorte de produit scalaire sur le tenseur des formations. Voilà, et après, en fait, vous définissez une matrice locale qui correspond, disons, à la matrice que vous obtiendriez sur votre maillage local à partir de cette formulation variationnelle. Et après ça, donc là, il n'y a qu'une connaissance, chaque sous-domaine, disons, ne connaît que sa matrice locale et ne sait pas vraiment comment interagir avec les autres. Et quand vous faites A égale loc, à ce moment-là, il se passe énormément de choses, en fait. Parce que A, je rappelle, c'est la matrice de type PETC, donc qui, elle, sait comment les voisins doivent dialoguer entre eux. Il y a des appels MPI, etc. Et bah ici, vous avez juste loc, qui est le truc local. Et donc, là aussi, il y a énormément de travail qui est fait pour passer à PETC. Et une fois que c'est fait, bah, en fait, vous pouvez utiliser toute la librairie PETC avec une syntaxe qui va ressembler... furieusement, pour ceux qui connaissent PETC, aux lignes de commande que vous passez en PETC. Donc là, par exemple, quand vous faites ça, vous dites que, en fait, la matrice grand A, quand vous allez chercher à résoudre un problème avec, bah, le préconditionneur à utiliser, c'est une méthode directe, LU, qui dans notre cas va être MUMS. Et après ça, vous pouvez écrire la ligne habituelle en FreeFM pour dire qu'on résout un système linéaire qui est de faire à chapeau moins 1 fois le second membre, qui en fait ne correspond pas à calculer à chapeau moins 1 et à faire une multiplication par le second membre, mais qui correspond à résoudre un système linéaire. Voilà, et puis vous pouvez faire appel aussi aux méthodes multigrilles, et donc voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est que, donc, pour la méthode multigrille fonctionne bien, il faut lui fournir le presque noyau de la matrice correspondante, et on sait que pour un problème d'élasticité, ça va être des mouvements de corps rigides. Donc en fait, vous avez à droite en fait, des fonctions analytiques, donc ça par exemple, c'est une fonction vectorielle, donc le déplacement dans la direction x vaut y, le déplacement dans la direction y vaut moins x, parce que ça permet une rotation dans le plan xy. Donc ça, c'est une fonction analytique à droite, et à gauche, vous avez des fonctions éléments finis, et il y a une interpolation en fait, qui est faite avec ce égal, et du coup maintenant, les vecteurs qui sont là correspondent à... Les fonctions éléments finis qui sont là correspondent à des mouvements de corps rigides. Et donc, du coup, après, on a accès aux degrés de liberté qui pourront être utilisés par la méthode multigrille pour qu'elle fonctionne bien. Alors, juste pour montrer un peu ce que ça donne quand ça tourne. Donc là, ça va être très verbeux hein, parce qu'on a mis KSP View, je voulais, là, parce qu'il y a marqué KSP View, donc il y a la manière de dire à PETC d'afficher le maximum d'informations. Voilà, donc là, en fait, hein, vous avez les matrices locales qui sont créées, etc. Il y a la résolution directe qui prend un peu de temps. Enfin, je n'ai pas mis un problème tout petit non plus. Voilà, donc là, vous avez la solution, vous pouvez afficher. Avec une déformation de la barre. Hein, puisque... OK. Et donc là, par exemple, alors la dernière résolution a été faite avec GAMG. Et où est-ce que c'est ? Enfin bon, vous avez accès au temps de calcul, bon, je ne sais plus où c'est. Bon, voilà, ça c'est avec GAMG. Et puis, vous avez aussi une méthode de résolution par MUMS. Hein, donc là, pour ceux qui sont habitués à MUMS, vous allez voir un moment. Voilà, d'accord. Donc, toutes les infos que MUMS peut vous donner quand il résout un problème, état d'information, etc. Et de nouveau, hein, si j'enlève KSP View, vous avez beaucoup moins de sorties. Voilà, donc ça, c'est pour la partie PETC. Pour la partie FFDDM, donc FFDDM, sa particularité, c'est d'être donc une librairie, disons, on peut dire, de méthode décomposition de domaine, mais écrite dans le langage FreeFM lui-même. Donc l'avantage, c'est qu'on peut manipuler directement les nombres réels et complexes en même temps, sans problème. L'écriture est faite via des macros. Alors, avantage, inconvénient des macros. Hein, les macros, c'est souple, mais inversement, s'il y a une erreur, l'erreur n'est pas toujours facile à comprendre. Et surtout, on s'en sert parce que ça permet de faire du prototypage de méthodes de composition de domaines et même du prototypage, on va jusqu'à un milliard de degrés de liberté, donc du prototypage qui va très loin, et tout en restant à l'intérieur de FreeFM et en pouvant jouer facilement sur les différentes options, etc., qu'on peut faire. Donc, vous avez un accès aussi, évidemment, au solver direct comme MUMS, par exemple. Hein. Et en fait, comme cette interface peut être mélangée avec l'interface PETC que j'ai montré avant, vous avez accès au multigris, mais en passant via PETC. Alors par contre, vous n'avez pas d'accès à GPU, puisque FreeFM en natif n'a pas d'accès à GPU, contrairement à PETC, qui a des. Si vous êtes bon dans PETC, vous pouvez faire du GPU avec. Bon, je ne veux pas rentrer dans un débat explosif sur le GPU, mais disons qu'avec l'arrivée des nouvelles architectures ARM, donc système on chip, comme le processeur A64FX de Fujitsu, ou le processeur M1 de Apple, on voit en fait que ces processeurs sont en fait complètement compétitifs avec les GPU, même pour des calculs pour lesquels on pensait que le GPU n'était imbattable. Alors, donc sans rentrer dans le détail des méthodes de composition de domaine, surtout que j'ai vu que je dépasse pas mal mon temps de parole, disons qu'un élément important pour avoir des méthodes extensibles, c'est d'avoir accès aux matrices locales de Neumann des sous-domaines. C'est, pour les méthodes multigris, il faut avoir accès aux pseudo-noyaux, ou presque noyaux, si vous voulez, en composition de domaine, pour avoir des méthodes qui vont avoir un nombre d'itérations qui ne va pas dépendre du nombre de sous-domaines, disons. C'est important d'avoir accès à ces matrices locales. Et bien, si vous utilisez, par exemple, la librairie HPDDM, il faut directement, donc, qui est écrite en C++ en MPI, bah, c'est à l'utilisateur de fournir cette information. Vous pouvez trouver cette information des fois parce que vous l'avez a priori du problème. Si vous regardez un problème de Laplacien de graphe, bon, vous savez reconstruire en fait ces méthodes locales, ces matrices locales. Et puis sinon, lorsqu'on est en FreeFM, bah, en fait, puisque l'utilisateur a été obligé entre guillemets de donner l'information variationnelle pour définir son problème, bah, en fait, on peut capturer entre guillemets cette information-là et après ça s'en servir localement pour construire ces matrices de Neumann locales qui ne sont pas donc, la restriction de la matrice globale au sous-domaine. C'est une matrice différente. Voilà, donc ça, c'est extrêmement pratique et on n'aurait pas pu le faire si on avait l'air intégré, disons, si on n'avait pas un langage dédié. Un autre intérêt aussi, c'est que dans la méthode décomposition de domaine, on a souvent intérêt à jouer sur les conditions d'interface au niveau des sous-domaines, en rajoutant des conditions de type robin ou transparente, etc. Et avec un DSL, c'est une ligne à rajouter dans le code. Alors, donc pour FFDDM aussi, vous avez accès donc via les sources de FreeFM à toute une série d'exemples divers et variés, hein, qui datent de physiques différentes. Donc j'en ai un ici. Un truc tout simple. Voilà. Alors. Donc, la philosophie est un petit peu différente dans le sens où donc vous pouvez toujours jusqu'à ce niveau-là, disons, vous avez un code séquentiel, disons entre guillemets, donc vous définissez un maillage global, vous définissez bon, via une macro votre formulation variationnelle qui correspond à la résolution de votre problème, et après ça, vous avez des commandes explicites pour dire de décomposer le domaine en sous-domaine, pour construire des espaces d'éléments finis distribués, et puis pour définir des opérateurs associés donc à la fois à la formulation variationnelle et aux espaces d'éléments finis distribués. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, ce qui est important, c'est que, en fait, toutes les. Pour s'en servir, on peut faire un include FFDDM, FFDDM.idp, qui est donc, en fait, un ensemble de fichiers, une dizaine de fichiers, disons, écrits en FreeFM, et que vous pouvez vous-même, après ça, adapter à une nouvelle méthode que vous voulez tester, ou vous voulez rajouter des diagnostics. Vous pouvez le faire en modifiant ces codes sources qui sont donnés. Donc ça, c'est un avantage. Par contre, le code est plus distant, disons, que le code FreeFM habituel que vous auriez écrit en séquentiel. C'est juste un... Voilà, un problème de poisson dans un cube. Voilà, et alors, vous avez aussi, bon, juste, je le mentionne là, bien que je ne dirai pas beaucoup de choses dessus, vous avez une interface avec Paraview. Et donc, pour les deux cas, hein, qui vient en fait avec l'interface PC, qu'on peut utiliser aussi ici, et qui vous permet donc d'exporter votre solution dans un format compréhensible par Paraview, et donc de faire la visualisation de votre solution en 3D. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent Paraview, vous vous retrouvez dans un Paraview. Alors, en conclusion, donc, où trouver d'autres informations? Ben, vous avez le site FreeFM, évidemment, freefm.org, où il y a une documentation en ligne. Donc là, je ne vais pas cliquer sur chacun des liens, mais dans l'exposé PDF que je transmettrai après ça aux organisateurs, en cliquant, vous avez accès directement au lien. Vous avez les sources sur GitHub. Vous avez une liste de discussions. Et vous avez les FreeFM Days, qui sont organisés chaque année par Frédéric Hecht, qui est à peu près en mi-décembre, à peu près. Dans le laboratoire. Cette année, ça a eu lieu à distance. Et si vous voulez en savoir plus sur l'interface PC, par exemple, ben, je vous conseille de regarder le tutoriel qui a été fait cette année par Pierre Jolivet et Pierre-Henri Tournier, et qui est accessible sur la chaîne YouTube de FreeFM, sur laquelle il y a d'autres aussi exposés auxquels vous pouvez avoir accès. Voilà, donc pour un récap rapide, donc, j'espère vous avoir convaincu que l'avantage de passer par des langages dédiés, c'est d'avoir des scripts qui sont courts et très expressifs, qui sont proches des maths. Et puis pour l'algèbre linéaire, ça a eu un avantage inattendu, enfin qui n'était pas prévu à l'avance, disons, qui est de pouvoir utiliser de manière beaucoup plus efficace les méthodes multigrilles et les méthodes de composition de domaine. Et ce que je n'ai pas mentionné ici, et, c'est des travaux récents, très importants, qui ont été faits pour introduire les méthodes intégrale, donc André Leblanc méthode, dans FreeFM, en relation avec les méthodes des compositions de domaine. Donc, c'est essentiellement des travaux autour de Xavier Claes, de Pierre Marchand, qui est un ancien étudiant en thèse de Xavier moi-même, et Pierre-Henri Tournier, avec aussi des outils de compression de matrice. Et ce dont je n'ai pas parlé, mais qui est important aussi, qui devient de plus en plus important, c'est la possibilité, en fait, de faire du raffinement adaptatif en parallèle. Donc, ça, c'est PAR-MMG, qui est interfacé avec FreeFM, et puis l'interface avec Paraview. Donc, j'ai fait une petite démonstration. Voilà, j'en profite aussi pour remercier Magenti, qui depuis de nombreuses années, les années 2000XX, nous soutient en nous fournissant chaque année des heures de calcul qui permettent de développer, de faire des tests et d'utiliser aussi le document dont je vous ai parlé, que ce soit pour FreeFM, HPDDM, etc. Et c'est un soutien très important et je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup Frédéric pour cet exposé. Alors, il y a eu beaucoup de discussions sur les notes partagées, auxquelles déjà Pierre a déjà beaucoup répondu. Je ne sais pas s'il y a des éléments que tu voudrais compléter. Donc, c'est assez verbeux.
Dans notre partagé, d'accord, et pas dans la discussion.
Pas dans le chat, non. Ce qui est difficile dans le chat, c'est de remonter dans les questions, parce que chacun peut écrire en même temps. D'accord. Du coup, voilà, on avait proposé cette méthode d'écrire dans le pad. Alors, du coup, si je les classe dans les premières questions qui sont arrivées, c'était ça concernait le maillage. Et donc l'interface, des interfaces possibles avec différents systèmes. Et donc ça c'était Daniel qui avait posé les questions et il y avait Pierre a répondu partiellement avec des exemples. Voilà, on trouve des exemples sur la doc de FreeFM, en fait, pour les manières de procéder.
Oui, oui, c'est ça. Donc FreeFM, hein, bon, enfin, Frédéric, je t'en parlerai mieux quoi, mais bon, FreeFM a un mailleur intégré en 2D, un mailleur 3D bon, qui est composé sur le fait qu'en faisant des maillages 2D, en les rassemblant les uns avec les autres, on peut faire des maillages 3D déjà assez compliqués. Et puis FreeFM sait lire en fait, les maillages générés par d'autres mailleurs comme GMSH ou d'autres choses, etc. Et donc ça vous permet d'utiliser des mailleurs externes et après ça de les lire dans FreeFM. Donc, c'est un peu de généralité dans FreeFM, vous avez beaucoup de choses. FreeFM peut marcher de manière autonome, il y a un solver direct aussi autonome dans FreeFM, qui n'est pas parallèle, etc., mais qui malgré tout fonctionne. Et mais l'idée, c'est que donc il y a une certaine autonomie, mais si quelque chose d'autre a été fait ailleurs, autant s'en servir.
Oui. Après, il y a eu des questions sur les. La possibilité de mailleur automatique, en fait, c'est. Alors, de donner des éléments supplémentaires à la fin, mais c'est pour savoir comment paramétrer, comment prescrire ce raffinement automatique, en fait, dans FreeFM.
Alors, okay. Alors Frédéric, si tu es toujours là, vas-y, réponds. Ouais. Bon.
D'abord, recherche où il y a plein de méthodes, c'est compliqué. La plupart des méthodes d'adaptation de maillage sont basées sur les métriques. Après, il y a des moyens de construire automatiquement les métriques. Il y a les outils de Pascal Frey ou en 2D dans l'adaptation de maillage via AdaptMesh. Il y a dans les slides des journées FreeFM une description d'à peu près tous les résultats classiques qu'on a sur les méthodes d'adaptation de maillage. Et là, si vous voulez avoir une réponse là-dessus, il faudrait faire quasiment un café sur ce sujet.
Il y avait une question corollaire, donc c'était pas sur la méthode, mais c'est plutôt sur le type de problème qui peut être abordé et traité sur quel type de machine par Laurent. C'était en cas d'utilisation du maillage adaptatif, c'est une question un petit peu plus loin dans le pad. Quel était, disons, le problème qui pouvait être abordé et le temps. Je ne lis pas directement la question, je me suis. Voilà. Le temps qui est dévolu à la résolution du système par rapport au raffinement, en fait. Et du coup, je ne sais pas si c'est qui a répondu, en fait, je n'ai pas regardé, mais avec beaucoup de références qui sont données sur le code. Donc, peut-être.
Ah ouais,
quelqu'un veut mettre un.
Vas-y, Frédéric,
ouais. Oui, alors, si ça se passe bien, on arrive à avoir des temps calcul, 10% pour le maillage, 90% pour le calcul. Maintenant, ça dépend profondément de la physique, du problème. On ne peut pas répondre de manière générique à ce genre de questions. Si on veut faire quelque chose de compliqué, ben, je dirais bêtement, c'est compliqué.
Mais je pense que pour ceux qui sont intéressés, c'est peut-être une bonne idée de les convier à venir suivre une journée de FreeFM, comme ça permet de voir un peu quel type d'usage est fait avec l'outil.
Les gens que je connais qui font ça, il y a Yonus Danaela à Rouen, où ils font des calculs de changement de phase. Ils utilisent l'adaptation de maillage pour approcher correctement la zone où la phase change. Il y a aussi tous les travaux de l'équipe de Grégoire Allaire où ils font de l'optimisation de forme et ils utilisent l'adaptation de maillage pour approcher correctement les formes. Dans l'adaptation de forme, les deux grands pour ça. Maintenant, je sais qu'il y en a d'autres, mais je ne les connais pas tous.
Merci.
De toute façon, si jamais vous êtes bloqué, vous avez des questions, vous avez la communauté dans FreeFM. Et mailing list, mais la mailing list, elle commence.